L'Union européenne n'a pas le choix. Soit elle intègre ces pays justement pour les stabiliser, ou soit elle les laisse à sa périphérie en prenant le risque que des conflits éclatent.
On peut parler d'une carotte européenne.
Cette décision permet, disons, de donner de l'espoir aux pays qui ont quand même fait des efforts, qui ont adopté, disons, un certain nombre de réformes structurelles pour se préparer à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense notamment à la Macédoine, mais après la Serbie-Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Le processus d'intégration à l'Union européenne, en fait, offre un cadre à ces pays. Je crois que c'est une solution, disons, pour ancrer ces pays dans la démocratie. Parce que malgré tout, la Serbie a connu, par exemple, un régime autoritaire jusqu'en l'an 2000. Aujourd'hui, la situation politique n'est pas complètement non plus stabilisée. Il peut y avoir des retours en arrière, parce qu'on a notamment en Serbie un fort parti politique d'extrême droite, qui est le parti le plus populaire à l'heure actuelle. Donc rien n'est gagné d'avance.
La Macédoine, d'un point de vue politique, est-ce qu'elle est fragile aujourd'hui?
La Macédoine, la situation est relativement stabilisée depuis le conflit qui a opposé les autorités macédoniennes et ses forces de l'ordre donc aux insurgés albanais en 2001. C'est un petit pays, la Macédoine, de 2 millions d'habitants, qui a en fait a subi, je dirais, tous les effets négatifs des conflits dans l'ancienne Yougoslavie au cours des années 90, qui a eu à subir les effets négatifs donc de l'embargo contre, à l'époque, la République fédérale de Yougoslavie, donc qui comprenait donc la Serbie et le Monténégro, qui avait des problèmes avec la Grèce, qui ne voulait pas reconnaître donc la République de Macédoine sous ce nom, dans la mesure où en Grèce même, il y a une province qui porte le même nom, et les Grecs pensaient que les Macédoniens avaient des prétentions territoriales sur la Grèce.
Quelles sont les caractéristiques du peuple, cette fois-ci, qui vit en Macédoine?
La Macédoine est, justement, comme son nom l'indique, un peu une Macédoine, puisque nous avons des Macédoniens, en fait, donc, qui sont slaves. Nous avons donc une minorité, les Albanais, qui sont vraiment reconnus, donc, en tant que peuple de Macédoine. Il y a un partage, de fait, du pouvoir entre ces deux principales communautés. Mais il y a également d'autres minorités nationales en Macédoine, notamment des Turcs, des Roms. Donc, il y a une tradition de vie en commun de toutes ces communautés nationales.
Alors pourquoi l'Union européenne a choisi de privilégier la Macédoine à la Serbie-Monténégro?
La Serbie-Monténégro n'est pas encore concernée parce qu'elle n'a pas franchi justement toutes les étapes préalables. Il y a encore, disons, des questions qui restent en suspens, notamment la livraison du général Ratko Mladic au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et ensuite, la Serbie connaît des difficultés parce que son cadre territorial reste encore flou, puisqu'on ne sait pas si le Monténégro va proclamer son indépendance au printemps prochain à l'issue d'un référendum. Par ailleurs, il y a la question aussi du statut futur du Kosovo. Le Kosovo va-t-il devenir indépendant? Donc la Serbie n'offre pas, disons, un cadre territorial bien clair aujourd'hui, et il faut que ces questions territoriales soient dans un premier temps résolues. Ça sera envisageable probablement d'ici quelques années, mais pas dans l'immédiat.
On ne peut pas imaginer d'éventuelles jalousies de la part des Serbes en voyant son voisin macédonien accéder à un statut que la Serbie est loin de pouvoir obtenir. Est-ce que ça ne peut pas, au lieu de rassembler les Balkans, être un élément de discorde?
Non, au contraire, la Serbie, plus elle est entourée de pays membres de l'Union européenne, mieux c'est pour elle, parce qu'elle ne pourra pas rester indéfiniment justement en dehors de l'Union dans un tel cadre, dans un tel environnement. C'est plutôt observé avec satisfaction.